Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le commentaire de
Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
Emmanuel, il y a quelques minutes, le PQ a fait un point de presse et on parlait bien sûr des tests de dépistage rapide. Ça va être la grosse question du jour à la rentrée parlementaire aujourd'hui.
Hein? Oui, mais c'est intéressant parce qu'on croirait que c'est un débat purement scientifique, mais c'est en train de devenir non seulement un débat politique, mais un immense boulet pour le gouvernement Legault. Pourquoi? Parce que les scientifiques de la santé publique québécoise semblent être parmi les seuls à pas trouver qu'on devrait les utiliser massivement. Alors, c'est assez surréel. Et hier, quand même, pour essayer de désamorcer ce débat-là, parce que il y en a 2 millions là qui dorment sur les tablettes, ben dorment pas, oui. Là, mais mettons qu'on les utilise au compte-gouttes. Pour être poli. Alors, M. Dubé, pour essayer de désamorcer et de piéger l'opposition, a fait un briefing, une séance d'information technique avec des hauts fonctionnaires, des sous-ministres, des chercheurs, pour nous convaincre que leur approche face aux tests rapides est la bonne. Puis on avait invité les partis d'opposition. C'est comme si ça, l'argument était de dire à l'opposition, vous voyez, vous contestez la science. Alors, j'explique le débat. Les tests rapides, ils sont moins fiables. OK? Pour une raison très simple, c'est qu'on n'a pas le temps de multiplier les cellules, tu sais, avant de les compter puis les mettre dans la machine. Alors, parce qu'ils sont moins fiables, il y a des faux positifs. Ça, tu peux dire, ben, c'est pas grave parce qu'après ça, on ira les tester, tu sais, confirmer le diagnostic avec un vrai test. Et il y a des faux négatifs. L'argument de la majorité des juridictions qui utilisent beaucoup ce test-là, comme l'Ontario, par exemple, c'est de dire que en utilisant les tests rapides, tu réussis à aller trouver des cas que tu n'aurais pas trouvé ailleurs parce qu'ils sont faciles et accessibles, tu comprends? Alors, si tu vas dans une école, par exemple, et que tu testes à tous les 2 jours des classes, mais tu vas finir par les trouver, tu vas trouver des positifs qui seraient passés sous le radar. Puis c'est sûr que tu vas en manquer parce que tu as des faux négatifs. Mais sinon, tu les aurais pas testés. Fait c'est comme donnant-donnant.
Dis-moi, je reviens à la phrase de Marois Risky, là. Quand on est en guerre, on utilise toutes les armes qu'on a sous la main.
Mais l'argument, la crainte de la santé publique et des scientifiques au Québec, c'est de dire qu'on va manquer des gens positifs. Donc, on va avoir ces fameux faux négatifs et l'inquiétude, c'est que ces gens-là auront un faux sentiment de sécurité d'être négatifs et risquent par la suite de relâcher les mesures sanitaires et d'aller infecter les autres. Ça te rappelle pas un autre débat, ça?
Le masque.
Ben oui. Et c'est un peu la même logique, finalement, que sur les ventilateurs. On veut pas mettre des ventilateurs dans les classes parce qu'on a peur qu'ils soient mal utilisés.
Non, mais sous prétexte que quelque chose n'est pas 100% efficace, tu dis, moi, je préfère m'en passer totalement. Je ne comprends pas la logique derrière ça, Emmanuel.
Ben, ils s'en passent pas totalement, parce que l'argument de la santé publique, c'est de dire, on va les utiliser au bon moment. Donc, de manière chirurgicale, dans des contextes bien précis. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est que la logique du gouvernement du Québec, c'est de se servir de ces tests rapides-là pour contenir une éclosion. Donc, tu as une usine où il y a 4 employés sur le plancher qui ont la COVID, tu rentres avec tes tests rapides, tu dépistes tout le monde, ça t'aide à contenir l'éclosion. Tu comprends? Mais l'argument inverse de ceux qui veulent qu'on les utilise massivement, c'est que ça t'aide à les dénicher, les éclosions, avant qu'elles fassent des ravages.
Ben oui,
les prévenir.
Et je lisais, on parle tout le temps, toi et moi, l'exception québécoise. Je te lisais aujourd'hui, excellente chronique, l'Ontario a acheté 9 millions de tests rapides en supplément aux 12 millions qui ont déjà été fournis par le fédéral. Ils vont avoir 21 millions de tests rapides. Ils vont les utiliser en masse.
Oui, le but, c'est d'en utiliser 300 000 par semaine.
Comment ça se fait que ça fonctionne? C'est correct pour... Comment ça se fait que les experts en Ontario vous disent oui, c'est une bonne décision, puis pas nous autres?
L'argument des scientifiques de la santé publique au Québec, c'est de dire que c'est l'usage de ces tests-là ne fait pas consensus. Ce qui est vrai, là, il y a un débat, là. Mais moi, ce qui me surprend, c'est que prends le cas des écoles, par exemple, OK? Là, ça fait 3 semaines que les élèves sont retournés à l'école au Québec. On est rendu à l'heure où on se parle avec, non, en date de vendredi 16h, 1000 classes fermées depuis la rentrée. 1000 classes fermées. 1000 classes fermées et 2761 cas. Donc, il y a 300 nouvelles classes qui sont fermées par semaine en moyenne au Québec.
Wow!
Au net. Donc, il y en a qui rouvrent, mais il y en a 300 plus que la semaine. Alors, tu dis, pourquoi il n'y a pas des stratégies de dépistage des asymptomatiques dans les écoles? On le sait, la majorité des enfants sont asymptomatiques. Il y en a-tu des enfants qui ont la COVID qui passent sous le radar, tu penses?
Ben,
en Ontario, ils ont une stratégie où ils vont déployer 25 000 tests PCR, là, les vieux tests classiques dans les écoles, pour aller trouver des cas, juste tester des enfants asymptomatiques, plus dans certaines écoles, dans des zones très chaudes, ils vont déployer 25 000 tests par semaine. Fait que là, tu me dis, l'argument de Québec, c'est de dire, oui, mais les tests rapides, ça prend quelqu'un pour les administrer. Puis on fait moins de tests en une heure parce que faut que tu mettes le test dans la petite machine. La petite machine, ça prend 15 minutes. Fait que là, alors, tu fais 4 tests à l'heure alors qu'une infirmière fait 50 tests à l'heure. C'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont en train de faire en Ontario et qu'ils ont fait en Nouvelle-Écosse. Comme c'est des tests où t'as pas, c'est pas des tests nasopharyngés, là, tu sais, où faut que t'ailles gratter le fond de la tête, là. Faut juste que tu rentres dans le nez, OK? Donc, c'est beaucoup plus facile. Ils sont en train de former des bénévoles pour le faire. Pour pas déshabiller le réseau de la santé. Alors, tu sais, c'est comme, tu dis pourquoi ailleurs sont capables de, tu sais, comme on dit en anglais, think outside the box.
Ben oui. Non, je ne comprends pas. Non, mais là
c'est problème.
C'est parce que ça devient un entêtement, là, de la part du gouvernement.
Ben, est-ce que c'est un entêtement? En même temps, mets-toi à la place du gouvernement. Le gouvernement, M. Legault, tu sais, c'est pas des épidémiologistes, là, ces gens-là, là. Alors, ils sont tributaires des avis des scientifiques qui travaillent au gouvernement. Alors, la question, c'est, est-ce qu'il y a une culture trop prudente? Est-ce qu'il y a un manque de formation? Est-ce qu'il y a un manque d'expertise à la santé publique du Québec? Et ça revient, tout ça, au leadership du docteur Arruda.
Ben oui, ben oui.
Alors, ben oui. C'est assez fascinant. Et c'est, en tout cas, j'ai hâte de voir comment l'opposition va être capable de soulever cet enjeu-là, parce qu'en même temps, politiquement, c'est périlleux pour l'opposition de remettre en question la compétence de nos propres fonctionnaires.
Tu sais, moi, je suis un grand, grand fan du film Le Parrain. OK?
Okay.
Et dans Le Parrain, il y a ce qu'on appelle un consigliari, c'est-à-dire un conseiller, qui est Robert Duval, qui est joué par Robert Duval.
Ben oui,
et à un moment donné, bon, la guerre pogne dans la mafia. Et là, il dit, tu seras plus mon conseiller. Et il dit, pourquoi je serai plus ton conseiller? Il dit, parce que toi, t'es un excellent conseiller en temps de paix. Mais t'es pas un bon conseiller en temps de guerre. OK? J'en ai besoin d'un en temps de guerre. Donc, c'est ça, je me demande, Arruda est peut-être un excellent directeur de la santé publique en temps normal. Mais là, on a besoin d'un directeur ou d'une directrice de la santé publique de guerre.
Oui, et qu'il n'y a pas, en tout cas, moi, je pense que la question se pose et c'est ce que relance ce débat sur les tests rapides. Parce que là, on est rendu le masque. Les écoles, ce qui est quand même hallucinant, l'histoire de la ventilation dans les écoles, qui soit toujours pas réglée. Alors qu'en Ontario aussi, on déploie, des ventilateurs. 60 millions d'investis au mois de janvier pour mettre des ventilateurs dans les classes en Ontario. Alors, le masque, les ventilateurs, les tests rapides. Mmh. On se dit, est-ce que les scientifiques au Québec travaillent avec des œillères? Est-ce que c'est assez intéressant? Parce que là, les cas s'accumulent. Et je pense que c'est un... Je ne sais pas comment résoudre ce débat-là, parce qu'on veut croire nos scientifiques dans la lutte contre la pandémie. Mais là, c'est comme si on était toujours à contre-courant
ben oui.
Des innovations qui se font ailleurs. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète.
On ne regarde pas ce qui, tu sais, si ça marche, si les autres provinces le font puis ça marche, ben pourquoi on n'adopte pas ces solutions-là? On dirait qu'on veut à tout prix faire les choses selon notre façon de faire. En tout cas, je trouve ça très étrange.
Mais on est encore dans ce climat de méfiance face aux autres juridictions, aux autres expertises. Et
du nationalisme mal placé. Et qu'est-ce qui arrive pour les vaccins, Emmanuel? Qu'est-ce qui arrive?
Ben, ce qui arrive à court terme, demain matin, rien. OK? Mais, alors, je ne vais pas dégoncer la balloune de M. Trudeau. Sauf que M. Trudeau, à 11h15, va annoncer que le Canada a signé un partenariat avec une des firmes là, dont le vaccin est en processus d'approbation, qui est celui de Novavax, qui serait efficace à 89,3%.
OK.
Qui n'a pas encore été approuvé par Santé Canada, mais qui est à l'étude. Mais la beauté de la chose, c'est que le partenariat inclut que le vaccin, devine où il serait produit, à Montréal.
Oh!
Ça serait le fun, hein?
Ça,
alors
ça
que finalement,
bien.
Le Canada puisse contrôler la production des vaccins dont on a besoin. Alors, tout ça dépend de l'approbation de Santé Canada, mais, et c'est là qu'il y a un mais important, l'usine en question pour les faire les vaccins à Montréal, au complexe Royal Mount du Centre national de recherche du Canada. Mm-hmm. L'usine, elle ne sera pas prête avant la fin de l'été.
Mm.
Alors, ça ne règle rien à court terme, mais ça pourrait jouer un rôle à la fin de la campagne de la vaccination quand on va être dans le feu roulant de la vaccination massive ou septembre, où là, vraiment, le but, ça va être de finir de vacciner tous les Canadiens pour la fin du mois de septembre.
Oh non, bon.
Ben là, cette usine-là aurait la capacité de produire 2 millions de doses par mois.
Benoît, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, bonjour, c'est Benoît. Dis donc,
bonjour.
J'étais curieux de savoir, as-tu déjà parlé, toi, à un cadre de Santé Canada? Ils répondent-tu à des questions Santé Canada? Parce que là, on est en pleine pandémie. Il y a des gens qui meurent, puis je t'entends dire, avec raison, là, qu'ils attendent pour évaluer tel vaccin, puis c'est en processus. On dirait qu'il n'y a pas d'urgence.
Non, je pense que... Non, c'est sérieux. Il faut penser que, généralement, approuver un vaccin, dans un cas normal, c'est à peu près... C'est plus de 2000 heures de travail. OK? Personne travaille, là, tu sais.
Ouais.
Et donc, en ce moment, ils ont quadruplé les équipes. Ils travaillent 24 heures par jour. Mais c'est quand même des dossiers scientifiques massifs et importants. Je pense pas qu'on peut placer le blâme sur l'approbation. Le problème, objectivement, c'est pas l'approbation des vaccins par Santé Canada en ce moment. C'est Johnson & Johnson vient de finir le vendredi et d'annoncer leurs résultats sur leur troisième... leur troisième essai clinique, Novavax aussi. Donc, le problème, je pense, c'est pas la vitesse pour approuver les vaccins. Le problème en ce moment, c'est l'approvisionnement.
Non, je comprends, mais quand Pfizer a produit son vaccin, là, et il a été approuvé par l'Union européenne et par les États-Unis, ben Santé Canada attendait encore pour l'approuver. Ça a été la même chose pour Moderna.
L'Union européenne la Grande-Bretagne et les États-Unis. Oui, mais ils les ont tous approuvés à l'intérieur de 10 jours les uns des autres, là. Et je pense que c'est pas ça la fin du monde. C'est l'Union européenne qui s'est traîné les pieds jusqu'au 29 décembre et qui, là, pour essayer de se sortir de son mauvais pas, est partie en guerre sur la production des vaccins avec l'Angleterre. Donc, à date, Santé Canada, on devrait pas les blâmer, je dirais, pour la vitesse de leur exécution. Ils ont été très rapides. Mais ils dépendent des données que donnent les manufacturiers. Alors, je te donne un exemple. Le vaccin de AstraZeneca, dont on parle beaucoup, beaucoup, qui a été approuvé en Angleterre, qui a été approuvé en Europe. Là, tu te disais, pourquoi il n'est pas approuvé au Canada? Mais pourquoi? Parce que le contrat du gouvernement canadien avec AstraZeneca prévoit qu'ils ne seront pas livrés avant le mois d'avril. Alors, AstraZeneca ne sont pas dans le feu roulant pour régler le problème d'approbation au Canada pour une livraison au mois d'avril.
Parce qu'il n'y a pas d'urgence.
Il était dans, il n'y avait pas d'urgence. Mmh. Alors, ils se sont préoccupés des pays où il y avait des contrats de livraison à plus court terme. Donc, oui, il va être. Alors, c'est pour ça qu'il n'a pas encore été approuvé au Canada, puisque c'est en avril, on s'en fout, là, c'est tout de suite le problème. Là.
Je vais rien faire une parenthèse. Là, les chiffres sont sortis en France, ça va très, très mal. Hein. Tu as vu les variants, les gens touchés par le nouveau variant, là, c'est passé de 6 % à 20 % 20 %, là, ils sont en train de perdre le contrôle totalement à Paris, là. Complètement.
Mais parce que c'est le problème, c'est que quand tu commences à les trouver, il est souvent trop tard. C'est un peu ça l'enjeu. Et c'est la question qui se pose ici au Canada. Tu sais qu'en Ontario, on a déjà trouvé, il y a déjà une usine en Ontario où le variant est présent dans l'éclosion et aucun des cas n'est lié à des gens qui ont voyagé. Donc, ils circulent dans la population, mais on n'est pas capable de les trouver, les cas. Et ça soulève une autre question pour Québec, si tu veux que je me lance. Québec ne teste que 5 % des tests positifs pour essayer de trouver le variant. C'est à peu près 70 par jour. Mmh. En Ontario, ils en font 214 par jour. En Colombie-Britannique, 500. Alors,
bon, on est
la place au Québec, Emmanuel, à trouver le variant.
Merci, Emmanuel, de nous remonter le moral.
Emmanuel, on est distinct. On est distinct au badon, on ne l'est pas. Merci, Emmanuel, la traverse.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Salut.
Puis là, c'est à bonne température.
Là, c'est bon. Là, c'est frais, c'est confortable. C'est comme l'automne. Oui. Moi, j'aime travailler à l'automne.
Toi, tu rentres à 10 heures, tu mets ça froid pour que quand tu rentres après ça à ton émission, là, c'est comme...
Non, c'est pas ça. Parce que baisse parce qu'il est à 24 degrés.
Ça
bedonnesse, là, il y a des odeurs.
Ça bedonnesse, tu trisac, rentre dans le studio. Ça sérénissime.
Demain, je me mets une bague puis je vais te demander de l'embrasser en rentrant. Hey, écoute, les gens, là, calmez-vous sur la route. Tu sais, c'est pas des farces, là. Il y a une tempête de neige, puis là, les gens roulent comme des Mongols, tu sais, c'est toujours les mêmes, là, les gros chars de luxe, les pick-up, toujours la même gang. Calmez-vous, restez tranquille.
J'ai pas vu dehors, ça tombe,
non,
là.
C'est l'enfer.
Ça tombe.
C'est l'enfer. Okay. D'ailleurs, tu sais, tu m'as reproché de, tu sais, on parle plus des chantiers à Montréal, mais tu sais, ils ont changé la sortie de l'autoroute de Ville-Marie, puis au lieu de monter Berry, là, tu montes Saint-Hubert, puis Saint-Hubert, c'est une petite rue, puis là, ça crée un bouchon là. Et là, la Ville de Montréal m'a dit, ben, c'est parce qu'on voulait pas de bouchon sur Berry. D'accord? Mais là, il y a des travaux juste à côté de Saint-Hubert. Que c'est jamais. Mais la Ville de Montréal a jamais tort.
Tu parles d'automobiliste? Sébastien Laperrière, qui est à la console aujourd'hui,
ouais.
OK, et qui fait l'émission de Mario et de Vincent le soir, il vit à Trois-Rivières.
Oui.
OK, il fait 3 heures de route par jour pour travailler. Une heure et demie le matin pour venir.
Ouais.
Il fait ça, puis après, il repart chez eux 1 heure et demie de temps. Il fait 3 heures par jour de route. Ça, c'est quelqu'un que le cœur à l'ouvrage.
Ben, c'est clair. Et qui aime habiter Trois-Rivières, de toute évidence. Hein? C'est ça, hein? C'est ça.
C'est le fun, Trois-Rivières.
Oui, certain. On va parler des masques. Encore Nancy Delagrave qui revient de COVID Stop, qui va à 10h30. Nous parler des masques, là, pas de masques artisanaux. Ça prend 3 épaisseurs. Faut tes attaches après tes oreilles et tes omoplates. Là, on va voir ça. Simon-Jolin Barrette à 11h. C'est la rentrée parlementaire. On va lui parler d'autres choses aussi de la pandémie. Puis il y a des affaires courantes à régler. Et à midi, on revient sur cette décision de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, l'INES, qui dit que finalement, la colchicine, tu sais,
ben oui,
annoncée par le docteur Tardif,
on va pas utiliser.
Non, on va pas cautionner le produit. Ça prend d'autres tests parce qu'il y aurait des réactions possibles. Mais pendant ce temps-là, la Grèce dit go.
Encore une autre affaire qu'on est en retard.
Non, pas pareil. Là, j'ai écrit, c'est rare je fais ça, moi. Mais j'ai écrit à l'INES ce matin, puis disais, si vous voulez éviter les théories de conspiration, les théories du complot, puis les rumeurs, puis on peut-tu avoir des informations puis des entrevues basées sur des faits? Pouvez-vous sortir puis nous expliquer pourquoi? Parce que les gens sont déçus. Parce que c'était prometteur, ce médicament-là, pour réduire les symptômes de la COVID.
J'ai appris ça ce matin, puis j'en revenais pas. Ouais. Comment ça se fait qu'on dit non à ça?
Non, on va avoir le virologue Benoît Barbeau avec nous tantôt.
On t'écoute, bien sûr. Moi, j'ai tellement hâte de quitter ici puis d'aller dehors. Ça va être chaud.
C'est chaud.
C'est fou. T'es un serpent. T'es un lézard. Je l'ai tout le temps dit.
Je suis un reptilien. Un reptilien. Demande à Christian Page, je vais te le dire. Je suis un reptilien.
Non, mais J'ai quasiment un glaçon sur le bout du nez. OK. Merci à Luc Fortin, Maude Boutet, Carl Marchand à la recherche. Merci pour la console, Jean-François.
Un glaçon, t'as dans les poches ou t'es juste content de me voir? Correct.
Jean-François Roy, Sébastien Laperrière, merci beaucoup à la console. On se reparle demain 8h pour une écoute Benoît.